Bonsoir, offensive populiste ou pétage de plomb. Les colères de Jean-Luc Mélenchon sont à la une des informés ce soir. Le leader de la France insoumise parle très haut et très fort de complot politique après les perquisitions menées contre sa formation. 380 sportifs, parmi lesquels Teddy Riner, Martin Fourcade, Renaud Lavillény, signent une lettre ouverte à Emmanuel Macron contre les réductions du budget du sport. Nous sommes déjà, eh oui, dans l'après-remaniement. À Caen, des péages urbains pour les véhicules, autant dire que la nouvelle fait sensation, tout le monde en parle. Il pourra un jour vous en coûter jusqu'à 5 euros pour traverser des grandes métropoles et pas seulement Paris. La voiture est-elle en train de devenir un luxe? L'Europe joue les prolongations avec Londres, ça ne nous surprend pas. Theresa May est en passe d'obtenir une rallonge pour la période post-Brexit. C'est un feuilleton. Franchement, il y a des divorces plus rapides dans la vie. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Agathe Cagé.
Bonsoir.
Docteur en sciences politiques, présidente de l'agence de conseil Compass Label. Avec nous également, bonsoir Thomas Clay.
Bonsoir.
Professeur de droit à la Sorbonne. Également, notre communicant est là. Bonsoir, Emery Doligé.
Bonsoir.
Un habitué également de ces informés de France Info. Et nous attendons la venue de notre journaliste Henri Vernet, partenaire des informés, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Aujourd'hui en France, il nous rejoint dans quelques minutes. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. A-t-il eu raison de se mettre en colère ou tout simplement a-t-il perdu ses nerfs? Cela fait 2 jours que les images de Jean-Luc Mélenchon tournent en boucle. Elles montrent un leader de la France insoumise tour à tour détendu en mode selfie, puis dans une rage noire contre les policiers menant une perquisition au siège de son mouvement, moqueur avec une journaliste, nous le verrons, et plus qu'agacé quand il se rend ce matin à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières de Nanterre.
On est dans une opération de police politique qui est nulle et qui va évidemment échouer parce qu'elle est pourrie de vices de procédure de toutes sortes et parce qu'elle n'a aucun sens. Et je me présente tout à fait tranquille car le ridicule va être du côté de ceux qui ont déployé tous ces moyens pour rien.
Police politique, vice de procédure, Thomas Clay. Tiens, je me tourne vers le professeur de droit à la Sorbonne. Qu'est-ce que dit au fond Jean-Luc Mélenchon ?
J'ai envie de vous dire n'importe quoi. Il nous dit n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans ce qui s'est passé, dans les images qu'on a vues, qui sont relativement consternantes, les images de ces perquisitions, je trouve qu'il y a une forme de paradoxe à la fois se revendiquer de la République et en même temps offenser la République. Au moment même où il dit « je suis la République », ce qui est d'ailleurs une incarnation un peu stupéfiante, il s'en prend à la République. Quand on aime la République, on tape pas des magistrats, on ne tape pas des policiers. Et d'ailleurs, on devrait d'ailleurs leur rendre hommage à ces policiers, à ces magistrats qui sont restés d'un calme absolument exemplaire. La République, c'est justement la justice. C'est l'un des pouvoirs qui est dans la Constitution et... crier au complot politique, alors c'est de bonne guerre, on l'a entendu à de multiples reprises, ça me fait penser d'ailleurs à ce que disait François Fillon pendant la campagne, rappelez-vous, sur l'antenne de France Inter, il nous disait « j'ai les noms, j'ai les lieux, je sais ce qui s'est passé », et 2 ans après, quasiment, on attend encore. Donc c'est une manière d'occulter le vrai sujet, qui est qu'il y a une enquête préliminaire sur des soupçons qui concernent Jean-Luc Mélenchon et son parti, et ça c'est le sujet.
Alors Henri Vernet, vous nous avez rejoint, bonsoir, bienvenue Henri.
Bonsoir,
tout va bien, vous êtes parmi nous, Henri, il parle de désescalade, il appelle à la désescalade judiciaire Jean-Luc Mélenchon, mais qui crée une escalade ?
Oh ben là, clairement, c'est lui qui l'a créée, parce que l'enquête, elle est là de toute façon, je dirais, il n'est pas le seul à la subir, notamment sur les assistants parlementaires européens qui auraient été employés à d'autres fins, ben, j'allais dire, c'est un grand classique. Hein. C'est pour cela que François Bayrou, notamment, a quitté le gouvernement, parce qu'il y a une enquête le visant, enfin lui et ses amis du Modem, le visant également, enfin je veux dire, c'est quelque chose qui... tous les partis qui sont soupçonnés de ces pratiques-là subissent les mêmes enquêtes, les mêmes perquisitions. Alors, en effet, peut-être pas forcément au domicile. Mais donc, l'escalade, c'est lui qui l'a provoqué. Je veux dire que sur les comptes de campagne, c'est pareil. Il n'est pas le premier, leader de la France insoumise, n'est pas le premier à subir une enquête sur ses comptes de campagne. Je veux dire, ça a été transmis par la haute autorité. Juste, je vous disais, vous rendiez hommage au calme des policiers. Moi, je rendrais également hommage à leur sens politique. Parce que, aussi bien le procureurs que les policiers, en effet, en ne réagissant pas, parce qu'ils auraient pu embarquer dans le panier à salade, je sais pas si on dit encore comme ça. Voilà, c'est l'image qui marche, l'image marche toujours, mais ils auraient pu, je veux dire, pour outrage, mais ça aurait été le meilleur cadeau à faire dans cette séquence-là à Jean-Luc Mélenchon, qui va en effet passer pour une victime politique, pour quelqu'un qui est victime d'une police politique. Et donc, je pense que oui, ils ont plutôt bien fait de rester, comme vous le dites, calme.
Agathe Cagé, est-ce qu'il joue gros, Jean-Luc Mélenchon, sur une séquence comme celle-ci, ou ça lui permet, au fond, de galvaniser ses soutiens ?
Je pense que Jean-Luc Mélenchon est en train de jouer gros. Il aurait sans doute été préférable pour lui qu'il choisisse la carte de la colère froide, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir une réaction forte par rapport aux perquisitions, notamment une perquisition massive, 15 homicides de collaborateurs. Il pouvait avoir une colère froide forte qui lui aurait permis de passer un message et d'avoir des projecteurs par rapport à son discours et par rapport à lui-même. Avec des images de violence physique, avec des images ensuite un peu d'hommage, de moquerie par rapport à une journaliste qui faisait uniquement son travail, avec des paroles assez dures par rapport à des journalistes en leur expliquant qu'ils ne sont pas de son niveau, finalement, il a mis le pied dans un engrenage de feuilletonnage. Alors, il pourra critiquer derrière les chaînes d'information en continu qui passent en boucle les images, mais il contribue un peu à ce mauvais feuilleton qui va nécessairement dégrader son image. Il a pour l'instant des soutiens massifs du côté des militants de la France Insoumise, mais il gagnerait sans doute à ralentir un peu le rythme et à sortir de ce feuilleton qui ne peut être que mauvais pour lui à terme.
On va poursuivre là-dessus. Emery Doliger, un mot, c'est de la bonne com?
C'est de la très mauvaise com. Et en plus, il vient de passer un cap qui est, avant, il se mettait à dos des fonctions, les journalistes, les procureurs, les policiers. Et avec cette journaliste-là, il s'est mis à dos maintenant des êtres humains. C'est-à-dire qu'il a humilié une personne en tant que politique en reprenant sur des accents quand on écoute
les sondages. On va évoquer ce cas dans un instant, je vous rassure.
Mais super.
Globalement, vous dites que c'est finalement, l'ensemble est une mauvaise séquence.
C'est une mauvaise séquence. Et ce que je n'ai pas encore réussi à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il la maintient toujours aussi haut depuis 3 jours?
Alors, il y a un sujet dans le sujet, on va y venir dans un instant, mais tout d'abord, 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Augustin Arrivé.
Jean-Luc Mélenchon, toujours persuadé d'être victime d'un traquenard, d'une manœuvre. C'est comme ça que le président de la France Insoumise décrit les perquisitions avant-hier au siège du parti. Le procureur de Paris, François Molins, s'assure ce soir que tout a été fait dans le respect de l'état de droit et de la procédure pénale. Jean-Luc Mélenchon, interrogé par la police aujourd'hui, entre autres sur ses comptes de campagne de la présidentielle 2017. Un seul ADN a été retrouvé sur le corps d'Alexia Daval et c'est celui de son compagnon Jonathan. C'est ce que confirme le dernier rapport d'expertise scientifique Information de France 3. Alexia Daval, tuée il y a un an, c'était en Haute-Saône. Jonathan Daval avait avoué, avant de changer de version cet été, il accusait depuis son beau-frère d'avoir étranglé la jeune femme. Quelques jours de plus pour s'expliquer. Washington laisse un délai à l'Arabie Saoudite. Il s'agit d'expliquer la disparition du journaliste Jamal Khashoggi au moment où il se rendait au consulat saoudien à Istanbul. Aujourd'hui, Amnesty International, Human Rights Watch et d'autres organisations ont écrit aux Nations Unies pour réclamer une enquête indépendante. Et puis les fans de Johnny Hallyday dormiront cette nuit un peu moins que d'habitude. Son ultime album sort ce soir à minuit pile avec des magasins ouverts exprès en nocturne pour l'occasion. 10 mois après la mort du chanteur, le disque est pressé à 800 000 exemplaires et rien que les précommandes, ça représente déjà l'assurance d'un disque de platine pour la major Warner.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors le sujet dans le sujet, Jean-Luc Mélenchon déplore que les procureurs, de la République soient nommés par le garde des Sceaux, donc par le pouvoir politique. Écoutez ce qu'en disait ce matin sur France Info, Jacky Coulon, il est secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats.
On ne peut pas parler de complot politique parce que la loi interdit au garde des Sceaux de donner des instructions au procureur de la République. Le procureur de la République ne reçoit pas d'instructions dans les dossiers individuels du garde des Sceaux, mais à son pouvoir, le pouvoir de nomination des procureurs de la République est entre les mains du pouvoir exécutif du garde des Sceaux.
Il est bien nommé par le pouvoir, ce procureur. Sur ce point-là, Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas entièrement tort.
Il n'a pas entièrement tort, mais plutôt que d'annoncer faire ces déclarations-là dans le cadre de perquisitions, Jean-Luc Mélenchon ferait mieux de porter une réforme devant l'Assemblée nationale, réforme du statut du parquet, que nous réclamons.
Monsieur le professeur de droit Thomas Clay à la Sorbonne, et qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait couper ce cordon une bonne fois pour toutes?
Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, on va voir si la France insoumise vote la réforme constitutionnelle qui sera présentée au Parlement au mois de janvier, d'après ce qu'on en sait en tout cas, qui porte justement cette question-là, c'est-à-dire non pas l'indépendance des magistrats, c'est pas ça le sujet, c'est les modes de nomination des magistrats du parquet. Mais il faut arrêter de dire que la justice n'est pas indépendante en France. La justice est parfaitement indépendante en France.
Que dites-vous ? Elle est indépendante ?
Elle est parfaitement indépendante en France. Non, elle est indépendante. Les magistrats sont indépendants. Ils agissent sur des commissions rogatoires. Ils sont pas du tout aux mains du pouvoir politique. Ça fait 15 ans ou 20 ans que les magistrats ont mené des enquêtes, parfois dans des contextes difficiles. Et au fond, quand on arrive au terme de ces enquêtes, on n'a jamais rien à leur reprocher. S'en prendre à la justice, c'est une manière de ne pas répondre de ses propres actes. Mmh. Et on aurait pu imaginer, d'ailleurs, faisons un peu de politique fiction, on aurait pu imaginer, Jean-François Aquili, une réaction exactement inverse de Jean-Luc Mélenchon, qu'il peut-être leur ait fait changer de dimension. Et s'il nous avait dit mardi matin, ben voilà, je suis perquisitionné, c'est désagréable, mais que la justice fasse son travail, et on verra bien à la fin qu'on n'a rien à me reprocher. Là, il aurait vraiment changé de dimension, plutôt que de tomber dans ce travers extrême dans lequel il est tombé.
Il pourrait vous embaucher, Thomas Clay. Agathe Cagé, vous dites quoi ce soir, justice dépendante ou indépendante ?
Justice indépendante, et je pense que Jean-Luc Mélenchon, là, sur cette séquence, fait du mal à la démocratie en s'en prenant à la justice, en s'en prenant à la police, en s'en prenant aux journalistes pour essayer de démontrer qu'il y a un immense complot médiatico-politique contre lui pour le faire tomber. Le problème de la séquence pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que si, in fine, par rapport aux deux enquêtes préliminaires, il n'a rien à se reprocher, on gardera quand même en tête et ses paroles et ses images qui ne le font pas du bien, ni chez ses soutiens, ni chez les personnes qui sont plutôt critiques par rapport à lui. Et s'il a des choses à se reprocher, on essaiera d'expliquer que Jean-Luc Mélenchon a voulu rentrer de force dans son local parce qu'il y avait un ménage à faire avant. Donc il ne gagne rien par rapport à la séquence. Et sans doute est-il intéressant d'ouvrir le débat sur le siège de parquet en France et conditions de nomination. Mais pas dans ces conditions-là et pas en réponse à une situation individuelle. Parce qu'en tant que politique, en tant que représentant de la République, c'est en réponse à une situation collective qui doit poser ces questions, pas par rapport à son cas personnel.
Alors, Henri Vernet, il y a eu récemment quand même une petite séquence émotion. Hein. C'était le chef de l'État qui se serait immiscé dans la nomination du successeur de François Molins au poste de procureur de Paris. Certains se disent choqués. Ce sont des pratiques réelles ou est-ce qu'il faut feindre de s'en étonner aujourd'hui ?
Non, je crois qu'on aurait tort de le feindre parce que ce sont des pratiques qui ont toujours existé. Je veux dire qu'elles sont vieilles comme la Ve République.
Mais ça vient contredire alors, simplement. Thomas Clay, alors,
il y a non. Voilà, exactement. Là, je partage entièrement.
Séparer l'instruction et la nomination.
Complètement. Mais en même temps, ça, c'est la réforme introuvable. Parce que cette réforme, elle a été proposée plusieurs fois, y compris par François Hollande. Et puis, pour finir, on n'a pas trouvé la majorité pour la voter. Parce que, je crois qu'il faut les deux tiers. Enfin, c'est quelque chose qui est pas facile à mettre en œuvre. Ce cordon-là, il est très difficile à couper. Alors maintenant, or, c'est quand même important parce qu'il y a
la gauche et la droite ont alternativement porté cette réforme, mais jamais en même temps.
Exactement, c'est bien ça le problème. Voilà. Donc chacune se neutralisant l'une l'autre.
Pour des raisons politiciennes. Et ils font de la politique avec la Constitution.
Et ce qui est embêtant, c'est que moi je suis d'accord, bien sûr, la justice est indépendante, en tout cas le plus possible, il faut l'espérer. Maintenant, ça repose aussi sur la confiance. Et donc l'idée qu'il n'y ait pas d'instruction particulière, oui en effet, la loi l'interdit. Il y a des instructions générales, par contre ça, il faut pas s'y tromper. Par exemple, on peut décider, voilà, c'est normal. C'est même tout à fait logique. La chancellerie peut dire, bah, soyez dur avec les dealers, etc. Bon. Mais ce problème de confiance existe. Et donc, ça permettra à des politiques, parce qu'encore une fois, là, Jean-Luc Mélenchon, c'est particulièrement virulent, vitupérant et spectaculaire. Enfin, rappelons-nous, Sarkozy aussi disait ça. Oui, il avait parlé de police, de la Stasi. Donc, pour mettre fin à ce soupçon, c'est vrai qu'il faudrait enfin cette réforme. Il faut y arriver. Couper ce cordon.
Emmerich Doldiger, malgré tout, par-delà ces moments de colère et ces images assez spectaculaires, ça parle aux gens quand même, non ? Il y a peut-être un soupçon de collusion avec le pouvoir de la part de la justice dans l'esprit de l'opinion publique.
Ça aurait pu parler aux gens si c'était arrêté. Mais il en rajoute toujours une petite louche tous les jours. Donc quand vous finissez par en rajouter tous les jours quelque chose, c'est que vous voulez cacher quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. C'est que vous voulez montrer la lumière sur un point et qu'on regarde pas ailleurs. C'est une vieille stratégie de communication. C'est-à-dire que mettez le feu quelque part, on verra pas le feu ailleurs. Et c'est ce qu'il a employé. Ça fait 3 jours qu'il est sans arrêt au devant de la scène en disant et en interpellant. Ce qui est très intéressant, c'est que Alexis Corbière aujourd'hui a commencé à faire un rétropédalage. calmons le jeu. Redescendons.
Oui, alors qu'il n'était pas le dernier à faire le coup de poing
pendant
la séquence.
Il était même le premier, je crois, oui. même dans la
c'est
séquence.
C'est ça qui est inquiétant, c'est alors, que c'est pas la dérive d'un homme, c'est la dérive d'un parti.
C'est d'un système même. Et que c'est que deux jours plus tard, ils commencent à faire rétropédalage. Et que peut-être ils ont commencé à se penser qu'ils étaient allés trop loin.
Alors, Éméry, vous évoquiez tout à l'heure cet échange dans la salle des quatre colonnes, ouais. Quand le patron des Insoumis a répondu à une journaliste se moquant de son accent du Sud. Et questionné sur son attitude, Jean-Luc Mélenchon s'en est même lui-même payé la profession. Écoutez ces deux petites séquences mises bout à bout.
Comme vous disiez sur la 3 il y a quelques mois, quand vous pointiez les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen, que c'était une décadence de la République.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, non mais...
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Non, madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Mais si.
Non, vous dites n'importe quoi. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français?
Monsieur Mélenchon, une autre émotion qui a saisi hier la profession, votre remarque sur...
Allez, la profession, je m'en fous, dites-le-lui.
Agathe Cagé, la profession, je m'en fous, dit-il. Hein. Enfin, il y a beaucoup de bruit autour. Commentaire. En français, s'il vous plaît.
Difficile, j'ai vécu trop longtemps à Toulouse. Il y a une difficulté là de s'en prendre à une personne qui est une journaliste, qui n'est pas une journaliste connue. Hein. Jean-Luc Mélenchon, désolé de citer un confrère, mais il ne parle pas pareil sur le plateau de Bourdin. C'est compliqué de s'en prendre à cette femme qui pose une question. Alors, je ne sais pas le sens ni le fond de sa question. C'est un sujet qu'on n'a pas à prendre en compte. On a une personne qui pose une question, qui a certes son accent, et là, on a Jean-Luc Mélenchon qui se paie gratuitement cette personne qui non seulement imite l'accent, si c'était stoppé à imiter cet accent, pourquoi pas, mais non seulement il imite son accent, mais ensuite, il fait comprendre que sa question n'est pas en français, et que sa question n'est pas de son niveau, il est allé trop loin, et on n'humilie pas comme ça quelqu'un qui exerce sa profession de manière normale. Là, vraiment, il abuse d'un pouvoir médiatique qu'il a, et je pense que c'est vraiment le moment où il doit se dire... Il faut peut-être que j'arrête et là que je me mette sur pause.
Vous dites quoi, Thomas Clé?
Il a perdu la boule, il a perdu ses repères. Il est dans une dérive et ça montre bien qu'il n'a pas les nerfs pour aspirer aux fonctions auxquelles il s'est pourtant présenté. On ne peut pas confier des responsabilités aussi éminentes que celles à laquelle il a prétendu obtenir, enfin vouloir.
On a vu la même scène finalement avec le président Macron sur les canebières. Quand il fait une sortie extrêmement violente contre Macron, le soir, il le croise dans une brasserie sur la Cognac, et là tout va bien, il est doux comme un agneau. Donc ce que vous disiez, il parlerait pas comme ça à Bourdin. Oui, c'est vrai qu'il adapte, je veux dire qu'il est parfois, il est un petit peu fort avec les faibles et un peu plus faible avec les forts. Et donc ça, c'est très gênant. Là aussi, il y a un décalage d'image qui en effet gênant. Et juste une dernière petite chose, se moquer d'un accent quand on est quand même élu de Marseille, c'est un peu embêtant, c'est pas très fin politiquement.
Allez, 20h20 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Augustin Arrivé.
Jean-Luc Mélenchon a répondu aux policiers aujourd'hui, interrogatoire dans le cadre de l'enquête sur les comptes de campagne de la France Insoumise pendant la présidentielle. Concernant les perquisitions au siège du parti, pas de changement. Le député parle toujours de traquenard et il accuse l'Élysée. Emmanuel Macron a répondu depuis Bruxelles, la justice est indépendante et j'en suis le garant. Les difficultés de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, 38 centres de l'AFPA fermeront d'ici la fin de l'année 2020. La direction l'a annoncé tout à l'heure en comité central d'entreprise et des répercussions sur l'emploi avec 938 suppressions nettes de postes. L'agence en grand déficit budgétaire, entre autres à cause de nouvelles offres numériques. Les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité dans la tuerie d'hier en Crimée. C'est l'avis de Vladimir Poutine aujourd'hui qui estime que l'élève à l'origine de la fusillade dans son lycée était sous influence. Il aurait considéré comme des héros les auteurs d'actes similaires aux États-Unis. La Crimée a entamé 3 jours de deuil national. Le bilan du massacre est passé à 20 morts, principalement des adolescents. Et puis l'amiante vaut à l'hôpital de Besançon d'être condamné en appel 40 000 euros d'amende, comme en première instance. Les risques liés à l'amiante étaient connus, mais les travaux n'ont pas été faits. La situation a duré 4 ans, d'où cette condamnation pour mise en danger de la vie de ses salariés, une première pour un établissement public.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Le remaniement est déjà loin et décidément la vie politique ne connaît aucun répit. En témoigne cette lettre ouverte co-signée par 380 sportifs de haut niveau pour s'insurger contre l'annonce de la suppression de 1600 cadres techniques d'État d'ici 2022 et la réduction du budget du sport pour l'année prochaine. La toute nouvelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu, avait été interpellée sur le sujet dès sa première sortie, c'était le 9 septembre dernier.
Je pense que cette annonce, elle est vraiment très brutale et ce n'est pas les bons mots qui ont été employés. Après, effectivement, c'est un objectif qui vient d'en haut, sans forcément connaître les spécificités vraiment précises du sport. Et c'est à moi de les expliquer maintenant.
Thomas Clay, là, ils ont raison de s'inquiéter, nos sportifs.
La suppression de effectivement 160 ETP équivalent temps plein, emploi équivalent temps plein, c'est inquiétant. La France a obtenu les Jeux Olympiques en 2024 à Paris, c'était pas arrivé depuis un siècle. Les champions de demain se font aujourd'hui, les champions d'aujourd'hui aident les champions de demain. Et quand 380 sportifs de haut niveau réclament quelque chose, et quand il y a parmi ces, j'allais dire en forme de boutade, quand il y a parmi ces 380 sportifs Teddy Riner, avec le gabarit qu'il a, quand il demande quelque chose, on le lui donne. Voilà, c'est tout.
Henri Doliger, la présence de Teddy Riner, ça frappe les imaginations, mais par-delà ce casting, si je puis dire, c'est un sujet, au fond, sérieux, mine de rien.
Ah oui, non, mais c'est un sujet sérieux, oui. et puis on voit bien la communication. On commence d'abord à interpeller la ministre avec une dimension très administrative, et puis ça fonctionne pas assez, il n'y a pas une réponse immédiate, donc on sort les poids lourds, pour reprendre ce que sous-entend Thomas Clay, et des sportifs qui ont une affection dans la population forte, donc c'est la deuxième étape de l'opération de communication. Et là, on n'interpelle plus la ministre, on interpelle directement le président. Donc, il y a une vraie puissance qui est en train de se mettre en place pour des ambitions qui sont finalement hyper festives. Quand on voit ce qu'on a vécu avec le championnat du monde de foot en juillet, forcément, on a envie tous d'être derrière nos champions.
Agathe Cagé, nous ne sommes pas très loin, effectivement, des succès français, le mondial, et soudain, ces sportifs qui en appelle au président de la République deux jours après le remaniement, ça fait désordre.
C'est compliqué de faire des t-shirts pour la boutique de l'Élysée avec Emmanuel Macron qui s'auto-célèbre, célébrant un but de l'équipe de France de football et ensuite de supprimer 30 millions d'euros de budget sur un budget à 451 millions d'euros. Hein. On a plus de 5% de suppression et d'annoncer 1200 ou 1600 suppressions de postes d'ici 2022. À un moment donné où la France a des ambitions de grande puissance sportive et on a la capacité aujourd'hui avec nos athlètes d'avoir des ambitions de grande puissance sportive, et des ambitions d'organisateurs de grands événements sportifs, Coupe du Monde de rugby, Jeux Olympiques de 2024, où la France ne les a pas. Mais si on a des ambitions affichées, et si en plus on se permet de faire de la communication politique avec les victoires de nos athlètes, alors on donne les moyens ensuite pour que le sport continue à s'appuyer sur des réseaux d'extrêmement grande qualité comme il le faut aujourd'hui.
Henri Vernet, nous sommes deux jours après, hein, les sportifs, mais également les retraités dans la rue aujourd'hui, à Paris et ailleurs. Il n'y a pas de répit finalement.
Ils ne sont pas les mêmes.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... Oui, merci Thomas Clay, j'aime bien votre humour. Mais il n'y a pas de répit pour le chef de l'État.
Mais non, parce qu'il a beau remanier, je veux dire que les problèmes des Français, ils sont toujours là. Et ce sont les problèmes de pouvoir d'achat, et notamment pour les retraités. Alors, je ne sais pas combien est-ce qu'ils étaient exactement aujourd'hui. Est-ce que le record de 200 000...
Il y a un chiffre de 3500 selon la police à Paris, hein, à Paris, et 15 000 selon les syndicats.
Voilà. Donc on est loin de la mobilisation de mars dernier. Mais ce qui est important politiquement, c'est que quelque part, ça infuse le fait que pour la quatrième fois depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, les retraités soient dans la rue, qui passent comme ça pour vraiment les grands oubliés, presque les victimes de la politique actuelle, ça infuse dans la population. C'est-à-dire qu'évidemment, on a tous des retraités autour de nous. Et donc, ce sentiment de gens qui ont vraiment du mal à joindre les deux bouts, quand on entend les témoignages, c'est quand même assez poignant. Ça crée une petite musique très désagréable, qui est embêtante et qui montre que les problèmes sont toujours là. Et puis, vous savez, au moment où le gouvernement, avec Jean-Paul Delevoye, enfin, qui est chargé de ça, qui n'est pas gouvernement, mais qui a ce dossier en charge, est en train de préparer une réforme importante des retraites qui inquiète un petit peu les Français, eh bien, ce bruit de fond de retraités qui nous expliquent qu'ils ont pas assez de quoi vivre, ça impacte cette retraite et cette réforme, ça la rend plus difficile. Et d'ailleurs, il n'est pas anodin qu'on a le sentiment qu'elle est un petit peu remise, en tout cas dans sa prochaine présentation, finalisation, ce sera plutôt pour après les élections européennes. Donc on sent bien qu'il y a là un dossier qui est hyper sensible, qui très parle explosif, à tout le monde, à l'opinion, et qui est à manier avec prudence et une réponse surtout du gouvernement.
Encore quelques mots, Emery et Doliger, nous sommes toujours dans cette France du mécontentement aujourd'hui. On a l'impression qu'il n'y a rien qui puisse inverser la tendance.
Je ne connais pas un président de la République qui n'a pas été dans la France du mécontentement. Il y a une espèce de constante de notre côté. Est-ce que c'est notre côté très gaulois, comme disait le président Macron il n'y a pas très longtemps, ou est-ce que c'est une réalité? Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content, forcément. Là, en ce moment, les retraités, mais je vais être très très cynique. Est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux pour faire basculer un mécontentement?
C'est 16 millions de personnes en France.
Je ne dis pas, mais...
Ils ne sont pas tous dans la rue.
Dans leur activité, dans leur action, est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux pour faire basculer quand on sait que les victoires électorales se gagnent souvent avec la jeunesse?
Allez, nous marquons une pause, la météo, le rappel de l'info, et ensuite nous parlerons de péage en ville, tiens, pour les voitures, entre autres, et également d'un Brexit en panne, lui, à tout à l'heure.
Tu m'as l'air bien pressée, ma chérie. T'as un rendez-vous ?
J'ai pas un rendez-vous, j'ai le rendez-vous.
C'est pour ça que tu t'es mis sur ton 31.
Je suis pas sur mon 31, je suis sur mon 30.
Ton 30 ?
Oui, sur mon 30. Pour fêter les 30 ans de Monsieur Store et profiter des 30% sur la sélection du produit anniversaire.
Donc, on va pouvoir changer nos volets, nos portes et nos fenêtres ?
Et c'est pas tout. En ce moment, des stores et des pergolas sont à gagner en participant au jeu concours Monsieur Store.
Monsieur Store ! 1000 façons d'aimer sa maison.
Vous avez un projet ? Appelez vite votre magasin Monsieur Store ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin.
Pour moi, le VIE est signe de réussite. Je dirige la branche Asie d'une marque d'artisanat français de luxe et j'ai choisi Samia en VIE, au poste de responsable marketing, qui n'est pas pour rien dans nos derniers chiffres.
Merci. Oui, après mon école de commerce, je voulais faire mes preuves. Et c'est super car... Pas maintenant, je suis en interview.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle ? Avec Business France, sourcez vos futurs collaborateurs pour votre développement à l'étranger. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
La météo, les prévisions avec vous, Jean-Pierre Hameau pour Météo France.
Demain matin, les nuages feront de la résistance dans un grand quart sud-ouest ainsi qu'en bord de Manche. Partout ailleurs, le soleil va briller généreusement après la dissipation des quelques grisailles ou bandes brouillard présents par endroits au lever du jour. L'après-midi, nous retrouverons un peu plus de nébulosité au-dessus du massif pyrénéen. Quelques cumulus vont traîner de la Bretagne au Cotentin sans altérer la sensation de beau temps. Partout ailleurs, l'ensoleillement restera généreux, aggravant l'état de sécheresse constaté dans de nombreuses régions. Côté température, les minimales seront généralement comprises entre 7 et 14 degrés, comptez 14 à 18 près de la Méditerranée. Les maximales se maintiendront au-dessus des moyennes de saison, prévoyez 18 à 26 du nord au sud.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Il est 20h30, vous écoutez France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. La question du Brexit n'en finit pas de peser sur le sommet européen qui se tient depuis hier à Bruxelles pour éviter un blocage total des négociations qui achoppent depuis ce week-end sur la question de la frontière irlandaise. Eh bien les 27 proposent de donner plus de temps à leur homologue britannique Theresa May et il s'agirait en fait de rallonger d'un an ce qu'on appelle la période de transition à partir de mars prochain. À Bruxelles pour France Info, Isabelle Labéry.
Rallonger la période de transition qui doit commencer au lendemain du Brexit, le 30 mars, et durer jusqu'à la fin 2020, ce serait donner plus de temps à Londres et Bruxelles pour finaliser leur partenariat commercial et régler les sujets qui fâchent. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission.
Ce n'est pas notre meilleure idée, mais ça nous donne de la marge pour préparer notre future relation de la meilleure façon qui soit. Je suis convaincu que nous trouverons un accord avec les Britanniques. On va y arriver.
Pour cela, il faudra que Theresa May fasse accepter l'idée à sa propre majorité, car c'est à elle d'apporter une solution, dit Emmanuel Macron, le président français, en fait une question de principe.
Ça n'est pas à l'Union européenne de faire des concessions pour traiter un sujet de politique interne britannique.
Rallonger la période de transition demande encore le feu vert des 27 à l'unanimité. Il faudra aussi trouver un accord financier avec Londres, qui devrait continuer à participer au budget européen. Autant d'obstacles supplémentaires alors que le temps presse. Mais ce soir, les dirigeants l'assurent en chœur, la dynamique est positive. Bruxelles, Marcos Darras, Isabelle Labéry, France Info.
Plusieurs ONG comme Amnesty International ou Reporters sans frontières réclament l'ouverture d'une enquête de l'ONU sur la disparition depuis plus de deux semaines de Jamal Khashoggi. Plusieurs ministres français, dont celui de l'économie Bruno Le Maire, mais aussi britanniques et néerlandais, ont décidé d'annuler leur venue au sommet économique saoudien à Riyad la semaine prochaine, le Davos du désert, après le possible assassinat du journaliste saoudien dissident. À trois semaines des élections cruciales de mi-mandat, Donald Trump relance un de ses thèmes de campagne favoris. Le président américain menace de fermer la frontière avec le Mexique pour empêcher des milliers de migrants d'Amérique centrale de gagner les États-Unis. En France, le Conseil d'État valide le méga fichier controversé regroupant les données personnelles de tous les Français. Pour ses détracteurs, le projet ne prévoit pas suffisamment de garanties contre les risques d'abus et de piratage. Le Conseil d'État lui n'y voit aucune atteinte disproportionnée aux droits des personnes au respect de leur vie privée. Et puis la grippe qui tue, 13 000 décès lors de la dernière saison et pourtant à peine la moitié des soignants ne sont vaccinés. Le ministère de la Santé lance une charte pour les y inciter. Il est 20h33, la suite les informer.
Les informer, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Agathe Cagé, docteur en sciences politiques, présidente de l'agence de conseil Compass Label, avec Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien, aujourd'hui en France, partenaire des informés, avec Thomas Clay, professeur de droit à la Sorbonne et passionné d'automobile, et avec notre communicant Emery Doligé. Alors bientôt des péages urbains pour les véhicules, les villes de plus de 100 000 habitants, tout le monde me parle de ça depuis ce matin, auront la possibilité d'instaurer cette mesure dévoilée par le média en ligne Contexte, et c'est un joli coup de sa part. Le projet de loi d'orientation sur les mobilités porté par la ministre des Transports Elisabeth Borne sera présenté le mois prochain au Conseil des ministres. Voici ce qu'en a dit ce matin le ministre de l'écologie François de Rugy, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV.
Ce seront les élus locaux qui décideront et donc il faudra que ce soit fait en toute transparence et de façon démocratique à l'échelle locale. Bien. Ce n'est pas l'État qui le décidera ou l'imposera à quelque territoire que ce soit.
Henri Vernet, cette mesure vous paraît juste, selon vous, instaurer des péages à l'entrée des villes?
Juste oui, quand vous habitez au centre-ville, dans les grandes villes, etc., vous trouvez ça juste parce que vous allez être moins pollué, moins congestionné pour vos déplacements, etc. En revanche, ce sera évidemment perçu comme injuste par tous ceux qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur voiture. Alors évidemment, il y a les transports en commun, c'est une réalité, il faut pas exagérer. Mais enfin, on sait quand même que aujourd'hui, ce qu'on appelle la France périurbaine, qui sont souvent les gens les moins fortunés qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser des voitures et en plus souvent des voitures assez polluantes, eh bien eux vont trouver ça injuste parce qu'ils seront pénalisés, parce qu'il faudra en plus, payer une certaine somme qui sera toujours importante quand vous avez de faibles moyens pour entrer dans la ville. Alors après, c'est juste si on s'intéresse à la santé, si on s'intéresse, je veux dire, à l'avenir, il est évident que là où elles sont appliquées, c'est-à-dire notamment à Londres et à Milan, Stockholm également, ça a clairement un effet bénéfique à la fois donc en termes de pollution, une pollution qui est bien moindre et un trafic qui est plus fluide. Mais bon, d'abord, c'est difficile à mettre en œuvre.
Votre regard est mitigé.
Mitigé. Je trouve qu'il y a un signe parlant, c'est que par exemple à Paris déjà, qui pourrait être la première concernée, on voit que Madame Hidalgo, qui est pourtant très allante sur des thèmes comme celui-là, elle n'y est pas favorable. Elle rejoint Valérie Pécresse, la présidente de région, qui n'est pas favorable non plus, parce qu'elle se rend compte que c'est extrêmement complexe et pénalisant à mettre en œuvre.
Thomas Clay, vous imaginez payant entre 2,50 € et 5 euros chaque fois que vous entrez en Paris
Justement, parce que moi je suis exactement dans la situation qui vient d'être décrite. Moi j'habite Paris intramuros, je suis un privilégié, et donc je ne paierai pas. Et ceux qui ont besoin de leur voiture pour rentrer à Paris pour travailler ou pour traverser Paris, eux paieront. C'est une mesure que alors ça sera pas à Paris.
Vous la désapprouvez ou pas cette mesure?
D'abord, puisque vous avez fait une allusion, et c'est vrai que dans une émission comme celle-ci, il faut savoir parler de tout, compris des sujets qui semblent pas
la tout se dire.
Qui semblent pas de la première actualité, puisque la première échéance de ce sujet-là, c'est dans 10 ans au plus tôt. Alors effectivement, ça a été présenté l'avant-projet de loi.
Ça va aller bien plus vite que vous ne l'imaginez. Hein.
L'avant-projet de loi a été présenté ce matin au Conseil d'État, d'État. Mais on ne sait même pas encore un projet de loi. Bon, ça va devenir un projet de loi, puis ensuite il faudra qu'effectivement les communes, il y aura les élections. À mon avis, ça arrivera jamais. Mais parlons-en pour la beauté du raisonnement. Pourquoi pas? Et effectivement, je suis d'accord, ça n'arrivera d'abord effectivement pas à Paris et pas en Île-de-France, et puis ça ne touchera pas des gens comme moi, évidemment. Ça sera les gens qui ont vraiment besoin de leur voiture pour vivre et pour travailler.
Agathe Cagé, vous êtes sur le même discours concernant ces éventuels futurs péages dans les grandes villes. Ça existe ailleurs, ça existe à Londres depuis pas mal de temps déjà.
Et regardons ce que ça fait socialement à Londres. C'est-à-dire que là, on a un projet de loi mobilité qui est en train d'organiser l'immobilité de la France périurbaine, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà assignées à résidence sociale. En plus, François de Rugy est fort sympathique. C'est-à-dire que l'État est en train de balancer la patate chaude aux maires en disant ce seront les collectivités qui auront à décider. Et puis ensuite, on aura des militants de La République En Marche qui feront des hashtags balance ton maire pour dénoncer les maires qui mettront en place la mesure. On est quand même sur une véritable difficulté. C'est-à-dire qu'on organise, certes, une amélioration de la qualité de l'air dans les centres périurbains, dans les centres hyperurbains qui sont habités par les plus privilégiés, mais on ne sait pas, en termes de dégradation de la qualité de l'air sur toute la périphérie, ce que ça va donner. Ouais. En tout cas, il faut quand même réfléchir de manière globale, et on voit que la maire de Paris, ça a été dit, ne s'est pas dit intéressée par le projet. À Lyon, n'est pas non plus d'intérêt qui a été manifesté, ni à Marseille. Donc pourquoi mettre en avant cette mesure si, un, elle n'a pas vocation à être appliquée, et deux, on ne sait pas ce que ça fera de manière globale sur l'ensemble de la population en termes d'amélioration écologique.
Puisque vous évoquez Anne Hidalgo, et avant de faire réagir Emery Doliger, je vous propose de réentendre ce que disait la maire de Paris, c'était au printemps dernier chez nos confrères et amis de Public Sénat.
Si à l'échelle de la métropole, on peut avoir un péage urbain, je pense aux camions, ça peut avoir une vertu pour dissuader peut-être un certain nombre de professionnels de rentrer dans la ville. Et deuxièmement, ça peut être peut-être une source de revenus pour financer de la gratuité pour un certain nombre de publics, voire pour l'ensemble du système.
Emery Doliger, vous êtes, vous, pour ou contre ce type de mesure? Après tout, ça peut aussi permettre aux collectivités de se financer.
J'ai le même problème que Thomas, je vis dans Paris. Et
vous
donc,
pouvez porter un regard sur ce qui se passe.
Je vais vous donner à la fin, je vous promets qu'à la fin de mon propos, vous allez avoir ma position, mais je pense qu'elle va être un peu détonnante. Donc j'ai le même problème que Thomas, je vis dans Paris, et en plus j'ai arrêté de prendre toute forme de voiture depuis bientôt 4 ans. Donc je ne circule plus qu'à vélo, en scooter et parfois en transport en commun. Mais blague à part, ce qu'on vit en ce moment, c'est juste un ballon d'essai. C'est-à-dire que, comme par hasard, un journal, certes tout à fait respectable, mais qui n'a jamais sorti de scoop, sort cette information-là. Donc ça veut dire que cette information-là lui a été donnée, montrée et pointée du doigt. Et derrière, tout le monde est obligé de réagir parce que c'est un sujet qui va dans le sens de l'écologie et du climat. Mais on est à quelques temps des échéances et la voiture est un phénomène totalement irrationnel pour les Parisiens, pour les Lyonnais, pour les Marseillais et même pour les Français en règle générale. Donc forcément, personne ne peut véritablement prendre position en disant je suis pour, je suis contre. Moi, j'irai même plus loin. Il y a Gaspard Ganzer qui disait il y a pas très longtemps, candidat à la mairie de Paris,
qu'il allait raser le périphérique.
Je trouve ça une bonne idée. Et vous voulez conduire une voiture, vous voulez conduire une voiture dans Paris, vous voulez continuer d'abîmer un petit peu Paris en conduisant une voiture, payez.
Allez, je vous ai trouvé pas si mauvais que ça sur le sujet de tous les quatre. 20h40 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Augustin Arrivé.
Tout a été fait dans le respect de l'état de droit et de la procédure pénale. François Molins, le procureur de Paris, réagit ce soir aux critiques de Jean-Luc Mélenchon. Le président de la France Insoumise a répété qu'il s'estimait victime d'une manœuvre politique. Le siège de son parti a été perquisitionné mardi et lui-même a été interrogé par la police aujourd'hui. Enquête entre autres sur ses comptes de campagne pour la présidentielle 2017. L'Arabie Saoudite se passera de Bruno Le Maire. Le ministre français de l'économie ne se rendra pas au forum économique à la fin du mois dans le Royaume. Le secrétaire américain au Trésor non plus. Le régime saoudien accusé de la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. La Maison-Blanche laisse quelques jours supplémentaires à Riyad pour s'expliquer. Le journaliste en exil n'a plus été vu depuis sa visite au consulat saoudien à Istanbul. Une usine restera bloquée demain matin près de Rouen. Le site Kimberly-Clark, propriétaire de la marque Kleenex. 135 employés, la CGT parle de 80% de grévistes depuis hier. Accès bouché et production au point mort. Ils s'inquiètent d'un possible rachat par Goldman Sachs. Le fonds d'investissement américain, le directeur de l'antenne européenne du groupe, doit se rendre sur place demain pour discuter. Et puis, sur l'île de la Réunion, le départ vient tout juste d'être donné ce soir à la lampe torche. La Diagonale des Fous, terrible épreuve de course à pied, 26e édition. Courage aux 2802 participants. Ceux qui finiront le parcours auront crapahuté 167 km. km, avec 9600 mètres de dénivelé positif.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, nous allons parler de ce feuilleton prénommé le Brexit, le no deal se profile et en plus ça rime. Le Conseil européen qui s'est réuni à Bruxelles depuis hier soir n'a pas accouché de l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais d'une possible rallonge de la période de transition. On va essayer de vous expliquer tout ça, c'est pas très simple. La sortie, en tous les cas, du Royaume-Uni est programmée au 29 mars 2019. C'est dans 5 mois et nous serons en pleine campagne des européennes. Elle battra son plein. Nous serons 2 mois, d'ailleurs, avant le scrutin. Emmanuel Macron, aujourd'hui, à Bruxelles, s'est voulu tout de même relativement optimiste dans une rhétorique dont la famille européenne seule a le secret.
Un accord n'a pas été trouvé, comme vous le savez, hier soir avec la Première ministre May, mais notre discussion a, je crois, pu consolider ce que je considère comme un acquis, c'est-à-dire la méthode retenue jusqu'ici et la volonté d'agir à 27 et de décider d'avoir à la fois un message de confiance, actant des progrès et en même temps un message d'urgence, compte tenu du fait que nous avons indiqué qu'il nous semblait impérieux désormais de pouvoir finaliser un accord.
Agathe Cagé, ça parle aux gens, ça hein ?
Oui, parce qu'ils savent très bien que quand ils invitent leurs voisins pour l'apéritif, mais qu'ils les gardent pas à dîner, ça veut dire que leurs relations ne sont pas très cordiales. Theresa May est arrivée à 19h, elle est partie à 22h30 et c'est pas été très cordiale et sa réception n'a pas été très positive. J'aime beaucoup quand le président de la République dit un accord n'a pas été trouvé. En fait, en français,
il
vous dites
sourire,
soit
un
accord a été trouvé
lèvres,
ou nous n'avons pas trouvé un accord. C'est pas la faute de l'accord qui n'ait pas été là. Il faut faire attention quand même à ne pas laisser traîner trop longtemps, parce que là on parle de rallonger d'1 an, à ne pas laisser traîner trop longtemps ce feuilleton du Brexit. À un moment donné, il faut quand même couper le cordon ombilical, parce que on fait beaucoup de mal à l'Europe en fragilisant d'un côté Theresa May, en fragilisant de l'autre côté les 27. Et le président de la République peut sourire et sa rhétorique peut être très bonne et on peut très bien faire du en même temps sur la question européenne, il y a quand même des vrais sujets derrière.
Thomas Clay, décidément, cette Europe que nous vivons n'arrive jamais à s'entendre, y compris pour divorcer, au fond.
Oui, alors, bon, pour divorcer, c'est pas le contexte le plus facile pour s'entendre, d'une manière générale. Mais incontestablement, là, on est dans une espèce de tragicomédie qui n'a pas été anticipée par les responsables anglais qui ont porté le référendum sur le Brexit. On est dans un niveau d'impréparation qui est inquiétant. Alors, cela dit, on a le sentiment, d'après les informations qu'on a, que 80, 85, 90% de l'accord est en train d'être trouvé et qu'au fond, ceux qui restent, et c'est d'ailleurs assez significatif, assez symbolique, c'est la question de la frontière sur l'île irlandaise. Et c'est significatif parce qu'au fond, l'Europe, c'est quoi ? L'Europe, c'est l'abolition des frontières. Et précisément, quand on sort d'Europe, il faut remettre des frontières. Et remettre des frontières, c'est pas si facile. Donc là, la question est de savoir si la frontière va être entre les deux Irlandes ou entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.
Ça, c'est un aspect des choses, l'histoire de la frontière irlandaise.
L'aspect le plus complexe aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que attention, ne nous trompons pas, il faut que l'accord intervienne non pas dans la période post-Brexit, mais avant le mois de mars 2019, et il reste en fait quelques semaines pour y arriver. On parle de prolonger d'un an la période post-Brexit, et non pas la période avant Brexit.
Henri Vernet, il y a quand même des choses extrêmement concrètes qui sont en jeu. Je signale qu'il y avait un excellent papier ce matin, article dans les pages du Parisien, aujourd'hui en France, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais c'était extrêmement
mais quand même,
bien rédigé, qui nous raconte que pas d'accord en bonne et due forme, et bien cela signifie, je vous cite, une relation difficile, voire parfois des blocages avec la Grande-Bretagne et l'Union européenne, donc dans les échanges commerciaux, et vous évoquez des blocages douaniers, peut-être à Dunkerque, et dans les transports aériens, voire ferroviaires, ça peut tourner vinaigre.
Ah oui, mais ce serait, en réalité, ce serait une tragédie qu'il n'y ait pas d'accord, ou qu'il y ait vraiment peut-être un accord amical
minima, et dans ce cas-là, ça veut dire que les 2 ans serviraient à affiner tel ou tel point. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, vous avez des lanceurs d'alerte en France là-dessus, qui sont des présidents de région. Je pense à Xavier Bertrand ou à Hervé Morin, qui tous les deux, alors ils sont concernés, ils sont sur la façade en face de la Grande-Bretagne, qui tous les deux ont expliqué, par exemple, les Hauts-de-France, ils ont fait un calcul, c'est que si se produit ce que nous décrivons donc ce matin dans Le Parisien, c'est-à-dire pas d'accord, ça veut dire qu'il faudrait tout simplement, fouiller les camions, puisque on retrouverait les douaniers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord nommer des douaniers, ensuite, il faut, pour fouiller un camion, si vous mettez 2 minutes, compte tenu du trafic actuel, vous auriez de part et d'autre, donc à Douvres et à Calais, des files d'attente de camions, etc., de 27 kilomètres. On vient de parler de pollution il y a 5 minutes. Mmh. Imaginons ça. Et surtout, imaginons les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, je veux dire des pièces pour les usines, qui passent de part et d'autre de la Manche, fabrication automobile, etc., les denrées périssables. Bref, on reviendrait à un monde qu'on ne connaît plus depuis les années 60 ou 70. Donc, très concrètement, il y a ce risque-là. Il y a aussi, et quand je parlais de lanceurs d'alerte, les présidents de région dénoncent une impréparation de la France. Alors, par exemple, je crois qu'il y a des douaniers qui sont actuellement formés parce qu'on va retrouver les bons vieux douaniers. Mais il faut également énormément d'agents, du ministère de l'Agriculture pour faire des contrôles phytosanitaires. Bon, même si on peut imaginer que les Britanniques ne vont pas changer demain leurs normes de fabrication. Mais quand même, qu'on revient à un État qui se prépare. Nos voisins belges et hollandais se sont préparés bien en amont. Les Français, là, on jette un petit peu la pierre aux Britanniques, mais côté français, on ne s'est pas vraiment préparé à cet accord non-accord.
Alors Thomas Clay évoquait la période de transition post-Brexit. Essayez de suivre, qui sera probablement prolongée au-delà de fin décembre 2020. C'est du moins une proposition de la première ministre britannique, Theresa May. On l'écoute.
Une nouvelle idée a émergé et cette idée, à ce stade, est l'option de créer une période de transition de quelques mois et ce ne serait que pour quelques mois. Mais le fait est que cela ne devrait pas être nécessaire parce que nous travaillons pour nous assurer que nous aurons cette relation future en place d'ici à la fin décembre 2020 et je suis sûre que c'est possible d'y arriver. Nous travaillons en ce sens.
Emery Doliger, c'est dans la douleur tout ça tout de même.
Ah oui, c'est vraiment dans la douleur. Ce matin, vous lisiez Le Parisien, moi j'écoutais une radio de couleur bleue sur laquelle il y avait un ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui parlait.
Sur Europe 1, vous pouvez le dire.
Je peux le dire. Alors sur Europe 1, chez nos amis d'Europe 1. Et le président de la République passé, et pourtant très grand défenseur de l'Europe, et probablement un de ceux qui en a fait le plus pour l'Europe, disait quelque chose de très simple, il disait « laissons-les sortir ». Telle quelle, et les gens, la population qui travaille de part et d'autre de la Manche, va recréer le lien. J'ai trouvé ça assez stupide d'un côté, parce que forcément, il y a les dimensions institutionnelles, politiques, juridiques, etc., mais plein de bon sens finalement, parce que à la fin, qui fait l'Europe? Les Européens.
Mais les Britanniques ne doivent pas rejouer le Brexit. Encore un mot là-dessus, Emery Doliger.
Rejouer le Brexit? Ils ont du mal. Là, ce que vient de dire Theresa May est assez symptomatique.
C'est assez définitif.
On va essayer d'y arriver, mais si on n'y arrive pas, on va quand même avoir une petite séquence 2, et donc peut-être que c'est, on n'y est pas du tout.
Allez, 20h50 sur France Info, le temps du rappel de l'info avec vous, Augustin Arrivé.
Amnesty International s'allie à Reporters sans frontières et d'autres ONG. Une volonté commune, l'ouverture d'une enquête indépendante des Nations Unies. Il s'agit de découvrir les circonstances de la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Il a disparu au début du mois à Istanbul en se rendant au consulat saoudien. Riyad dément toute responsabilité, mais les tensions diplomatiques se répercutent sur le forum économique. Forum que le pays accueillera à la fin du mois. Le secrétaire américain au Trésor a annulé aujourd'hui sa venue, même décision pour Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Les députés ont réduit aujourd'hui un abattement fiscal qui bénéficiait aux contribuables d'outre-mer, jusqu'à 40% d'abattement dans certains départements. La ministre Annick Girardin explique que l'argent récolté servira à construire des services publics sur place. Elle cite des écoles et des crèches. Plusieurs députés d'outre-mer, y compris de la majorité, s'étaient opposés à cette modification. Ils parlent ce soir d'une humiliation. Jonathan Daval accusait son beau-frère d'avoir étranglé Alexia Daval. Le dernier rapport d'expertise scientifique ne va pas dans ce sens. Au contraire, le seul ADN retrouvé sur le corps de la jeune femme est celui de Jonathan, le compagnon mis en examen pour ce meurtre. C'était en Haute-Saône en octobre 2017. Une demande de mise en liberté a été refusée la semaine dernière. Et puis, il reste 24 heures pour tenter le coup. La plus grande cagnotte jamais mise en jeu dans une loterie. Ça se passe aux États-Unis. 900 millions de dollars à gagner. Le tirage au sort aura lieu demain soir. Ça revient à empocher 26 millions d'euros d'argent de poche chaque année pendant 30 ans.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Augustin Rivet l'évoquait à l'instant, Bruno Le Maire annule donc à son tour sa participation au Davos du désert, vous savez, le sommet économique de Riyad, en raison de la disparition inexpliquée, toujours pas expliquée, du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. La liste des personnalités qui vont boycotter cet événement s'est allongée, cela va de la patronne du FMI au secrétaire américain au Trésor. Washington accorde encore quelques jours à Riyad pour mener leur enquête sur la disparition du journaliste et opposant saoudien Henri Vernet. Où va cette affaire, selon vous?
Elle dégrade quand même d'abord considérablement l'image qui était déjà pas très reluisante de l'Arabie Saoudite, qui a jamais été considérée comme un parangon des droits de l'homme et du respect des droits de manière générale. Mais là, ce qui est quand même frappant, c'est en effet c'est à quel point tout le monde, enfin tous les grands soutiens comme les États-Unis, même si Trump est plus mitigé, prend ses distances. C'est-à-dire que déjà, à en croire les médias turcs, le scénario serait absolument abominable. Ce journaliste.
Mais des récits sont sortis d'assassinat assez dur.
Carrément découpé.
Ça n'a pas été confirmé, tout ça, encore.
Non, bien sûr, on est bien d'accord. L'enquête n'a pas abouti. Alors, maintenant, le fait qu'il y ait cette condamnation, que Davos, c'était quand même la vitrine de Prince Ben Salman, donc il se voit sur le trône le plus prochainement possible. Évidemment, ce Davos, c'était un instrument à la fois de diplomatie et de diplomatie économique important pour lui. Donc, tous ces boycotts vont l'affecter. Cela dit, j'ai trouvé frappant ce matin, donc quand Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a annoncé qu'il n'irait pas, il a aussi ajouté que ça ne remettait pas en question le partenariat stratégique de la France. Et ça, c'est quand même vrai pour la plupart des grands fournisseurs. C'est que, là, on marque le coup, on n'y va pas, on fera la chaise vide, mais attention, les gros contrats, parce que l'Arabie Saoudite, elle a quand même une qualité, c'est son or noir, c'est ses milliards de pétrodollars.
Justement, Thomas Clay, l'Arabie Saoudite, infréquentable d'un point de vue diplomatique, mais fréquentable d'un point de vue économique, c'est ça l'idée?
C'est un peu ça qui ressort, mais peut-être, si je peux me permettre un commentaire avant ça, je trouve que l'ampleur qu'a pris cette affaire montre quand même que les temps ont changé. Parce que c'est pas la première fois, hélas, qu'un journaliste est supprimé dans des conditions abjectes. Et là, Mohamed Ben Salman, si c'est lui, peut-être... lui aussi, à l'hubris de son propre pouvoir, a cru qu'il pouvait faire comme avant. Et manifestement, il y a une résistance politique, une résistance journalistique. Alors c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que les journalistes pour défendre les journalistes. C'est vrai que ça prend une ampleur qui montre que les temps ont changé. Maintenant, d'un point de vue, pour répondre à votre question, d'un point de vue économique, la réaction de Donald Trump en demi-teinte, on peut le dire, et même au-delà,
disons très réal-politique,
c'est ce que j'allais dire, montre que malgré tout, les contrepoids et les moyens de pression sont assez faibles. Et il y a un journaliste, un grand éditorialiste du Washington Post qui a écrit il y a quelques jours que c'était le signe du retrait, Robert Kagan, c'était le signe du retrait des États-Unis sur cette défense des valeurs, sur cette défense d'une politique internationale morale. Et là, je crois qu'effectivement, la France est bien avisée de ne pas aller trop loin dans cette direction qui est impulsée quand même par Donald Trump.
Agathe Cagé et Thomas Clay évoquaient à l'instant la personnalité de MDS, le prince héritier Mohamed Ben Salman, qui avait marqué les esprits au départ avec autorisant les femmes à conduire des voitures en Arabie Saoudite. Son image aujourd'hui est très abîmée.
son image aujourd'hui est dégradée. On va voir comment se conclut ou la transparence qui sera faite ou non par Riyad sur cette affaire. On avait un Mohamed Ben Salman qui avait vraiment réussi une grande tournée internationale, qui avait été reçu partout avec le tapis rouge, qui s'était déplacé longtemps et qui en plus avait réussi à proposer des avancées sociales intéressantes dans son pays. On avait déjà vu une première dégradation avec la rupture des liens diplomatiques entre le Canada et l'Arabie Saoudite sur des questions de droits de l'homme. Et là, on voit les limites d'un pouvoir qui a fait le choix de donner un peu plus de souplesse sur un certain nombre de sujets, mais qui, si ça se confirme, aurait des pratiques qui ne peuvent pas être acceptables par les pays démocratiques. Mais c'est assez frappant quand même, parce que on voit depuis plusieurs mois plusieurs assassinats politiques commandés par des pays sur des territoires d'autres États. Hein. On l'a vu en Angleterre. Là on le voit en Turquie. Voir finalement des relations économiques qui sont apaisées entre à peu près tous les pays du monde et en même temps ce type de pratique qui se développe, ça montre bien quand même qu'il y a des limites entre les relations qu'on tisse au niveau économique et le fait que la diplomatie ne peut pas seulement servir à défendre les valeurs morales.
Emery Doliger, ce qui est saisissant pour conclure, c'est que nous assistons à ce feuilleton tragique en direct alors que cela concerne un royaume extrêmement fermé.
Ce que disait Thomas,
le monde a changé.
Le monde a changé et on ne peut plus aujourd'hui. On l'avait vu déjà pendant les printemps arabes où effectivement ils ont essayé de bloquer Twitter, Facebook à l'époque et il y a eu des choses qui ont permis de débloquer tous ces comptes-là. Donc oui, les temps ont changé, le peuple peut parler, le peuple peut dire, on peut réagir maintenant. Les grands gouvernants ont en face d'eux maintenant des gens qui... Donc il y a la possibilité de faire. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est si effectivement c'est vrai pour cette histoire de Jamal Khashoggi qui a été découpé, on va avoir du mal à le retrouver.
Allez, Henri Vernet, qu'y a-t-il demain à la une du Parisien, aujourd'hui en France?
Le disque posthume de Johnny Survivant.
Bien sûr. C'est la une. Allez. Merci à vous, Henri Vernet. Merci, Emery Doliger, d'être venu ce soir. Merci à Gaëlle Cagé.
Merci.
Et merci, Thomas Clé, passionné d'automobile. Pour ma part, je vous retrouve avec plaisir demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info. Merci. Bonsoir.